Bonjour à tous. Donc, bravo d'avoir affronté la chaleur pour venir ici. Enfin, il fait bon. Donc, je suis Marie-Bello Barry. Je suis dermatologue, chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint-André, juste à côté. Et je suis avec le docteur Émilie Gérard, qui travaille également dans le service et qui s'occupe tout particulièrement des cancers de la peau. Donc, ça va être le cœur de notre sujet. Voilà. Donc, je vais commencer. On va parler un peu en globalité, puis après, on va s'avancer vers les cancers de la peau. Donc, les maladies de la peau, c'est des maladies qui sont très fréquentes. Tout le monde en parle, en fait. Tout le monde a eu, à un moment, une maladie de la peau, parfois qui sont éphémères, d'autres plus chroniques et qui peuvent être invalidantes au quotidien. Et puis, ça va être le sujet de notre présentation, les cancers cutanés qui sont en augmentation en termes de mortalité. On pense toujours à la mortalité en termes de cancer, mais aussi de ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire l'impact sur le quotidien quand on a été opéré, quand on a un traitement pour le cancer. Il y a tous les effets collatéraux qui peuvent exister. Et puis, la peau, c'est une des particularités de notre spécialité, peut être sentinelle de maladies profondes. Par exemple, on a des personnes qui se mettent à se démanger énormément et ça peut révéler un lymphome des ganglions, par exemple. Il peut y avoir vraiment des choses sur la peau qui vont nous amener, nous, dermatologues, à faire des diagnostics de maladies générales. Globalement, 16 millions de Français souffrent d'une maladie de peau et ça représente plus de 6 000 maladies de peau. Et encore une fois, on insiste pas mal sur cet impact physique et psychosocial. C'est pas juste du paraître. Et ces maladies chroniques sont souvent propices au découragement pour les patients. À côté de ça, on a des avancées vraiment majeures pour les maladies de peau. Il y a une révolution, et Émilie Gérard va vous en parler, dans le traitement des cancers cutanés, mais dans beaucoup aussi de dermatoses inflammatoires chroniques. J'ai mis un mélanome ici, mais là j'ai mis un psoriasis, une urticaire, un eczéma, des maladies bulleuses immunologiques, une pelade, un vitiligo, une maladie de Verneuil, des hémangiomes, la gale aussi. Vous voyez, il y a plein de choses pour lesquelles on a fait des progrès thérapeutiques et il y a maintenant quelque chose à faire. Alors faisons un focus sur les cancers cutanés. Alors on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Est-ce que c'est juin jaune? Est-ce que c'est mai violet? En fonction de l'association ou de l'organisme qui parle de cela. Mais en tout cas, on est dans une saison où c'est important d'en parler. Mais je dirais qu'il faut quand même en parler du mois de juin au mois de décembre. Puisque les UV, c'est toute l'année. Ce n'est pas que en mai, ce n'est pas que en juin. Alors, moi, je vais vous parler de la partie prévention. C'est vrai que soleil, cancer de la peau, ben, pour faire le point, il faut d'abord parler de prévenir et de dépister. Et je vais vous parler des effets du soleil. Je vais vous parler, Émilie Gérard vous parlera des cancers cutanés. Et puis, j'aborderai aussi un point sur lequel on reviendra à la fin de la présentation. Suis-je à risque ? Comment savoir que je suis à risque? Et puis, je vais vous en parler tout de suite, comment me protéger. Alors, je vous ai mis quelques illustrations de pas mal de campagnes qui ont été faites. Moi, je trouvais que c'est la campagne de l'année dernière, « On n'est pas des saucisses », était pas mal. « On peut griller son pain, pas sa peau »,« Le ridicule ne tue pas », avec la personne qui se recouvre de crème. Et puis, voilà, la journée d'information sur les cancers de la peau qu'on fait chaque année avec le groupe de cancérologie cutanée de la Société française de dermatologie. Alors le soleil, je ne vous dis pas qu'il faut rester enfermé chez soi, dans le noir, et c'est indispensable le soleil, c'est indispensable à la vie sur Terre. Quand il n'y aura plus de soleil, eh bien, il n'y aura plus de vie sur Terre. C'est source de chaleur, bien sûr. Ça favorise pour tout un chacun la synthèse de la vitamine D qui se fait au niveau de la peau. Et puis le soleil, c'est vrai que c'est souvent synonyme de bien-être. Quand il y a peu de lumière, eh bien, je pense que vous l'avez tous remarqué, on se sent parfois un peu plus déprimé ou un peu plus triste. Et puis, quand il y a une belle luminosité, alors je ne dis pas quand il y a une chaleur à 45 degrés, mais en tout cas, quand il y a une belle luminosité, eh bien, on se sent tout de suite mieux. Et ça a été tout à fait bien montré dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, où il y a l'hiver des journées extrêmement courtes. Eh bien, le taux de dépression est très, très élevé l'hiver, alors que ça va mieux l'été. Les ultraviolets, ils sont souvent utilisés par nous, dermatologues, pour traiter certaines maladies de peau. Mais il faut savoir les utiliser avec raison. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mais. Il y a un mais dans le soleil indispensable. Il faut quand même s'en méfier. Et il faut savoir s'en méfier. Et quand s'en méfier ? Pour ne pas se retrouver avec coup de soleil, coup de cancer, et puis en premier avec le coup de soleil terrible, voyez, avec les grosses bulles, et puis après on pèle. Alors tout de suite après, ça va faire rouge, comme sur la photo du milieu. Et puis si on a pris des coups de soleil, surtout dans l'enfance, surtout quand on était adolescent, eh bien on va avoir ces petites taches sur les épaules. C'est pas des grains de beauté, c'est pas des névus, c'est ce qu'on appelle des lentigos solaires, qui sont faites pour nous un signe qui veut dire il y a eu des coups de soleil sur cette peau. Et ce signe, en fait, est un marqueur de risque d'association avec le mélanome. Donc nous, si on voit un patient qui a ces lésions-là, eh bien, on se dit, tiens, cette personne-là, même si parfois il ne s'en souvient pas, en général, il s'en souvient, eh bien, il a eu des coups de soleil, eh bien, il a plus de risque d'avoir un cancer de la peau. Et puis, il faut aussi s'en méfier parce qu'il y a certaines maladies de peau, comme une maladie de peau dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le lupus, qui est une maladie immunologique, eh bien, qui s'aggrave lorsqu'on va exposer sa peau au soleil. Il y a certains médicaments, certains antibiotiques, mais certains aussi médicaments pour la tension artérielle, qui peuvent être photosensibilisants. C'est-à-dire que pour une quantité de soleil où on ne ferait pas de réaction d'habitude, vous prenez ce médicament, vous allez vous retrouver tout rouge. Vous voyez, comme ce patient, il y a juste la partie qui était à l'extérieur, qui est toute rouge. Et puis, alors, il y a aussi des chimiothérapies, des traitements ciblés anticancéreux qui peuvent comme ça être très photosensibilisants. Et puis, le vieillissement cutané. Vous voyez, avant de parler de cancer, on parle aussi de tous ces effets-là. Et le vieillissement cutané, eh bien, il est vraiment lié à l'âge, bien sûr, mais lié aussi au soleil. Alors, que fait le soleil sur notre peau ? Eh bien, ça va donner cet épaississement de la peau qui va devenir un peu jaunâtre, avec des rides un peu profondes. Il va y avoir des lésions de toutes les... La peau va devenir un peu de toutes les couleurs, avec un peu de blanc, un peu de marron, un peu de rouge. Vous voyez ces taches marron que vous avez sans doute vues sur le dos des mains, sur les faces latérales du visage, la nuque qui va devenir toute quadrillée avec cette peau très épaisse. Et on peut observer ça de manière un peu démonstrative. Il y a cette publication du New England Journal of Medicine, qui est vraiment un grand journal de médecine, et qui a décrit ce chauffeur de camion qui a la peau, vous voyez, qui a nettement plus vieilli du côté exposé au soleil tout au long de son activité professionnelle. Et là encore, ces deux jumelles de cette publication, il y en a une qui s'est protégée du soleil, l'autre non. Et voyez, pour un visage identique, elles ont vieilli, elles ont le même âge, mais il y en a une qui a une peau qui est beaucoup plus vieille. Il y a le vieillissement qu'on appelle chronologique, c'est l'âge, et le vieillissement qui est vraiment du soleil. Et on voit que la peau va devenir tout à fait différente lorsqu'on regarde des coupes histologiques. Ici, on a ce qu'on appelle l'épiderme, la partie superficielle de la peau qui devient tout à fait anormale. Et le derme aussi. Et si vous voulez voir l'effet du photovieillissement, eh bien regardez votre peau cachée par les sous-vêtements. Sauf si vous avez fait du naturisme, et bien vous verrez que vous avez une peau qui a 10 ans, 20 ans, X de moins que la peau qui est exposée. Alors, c'est les cancers cutanés, donc ça, Émilie Gérard va vous en parler. Donc, il y a toutes sortes de cancers cutanés. On va vous parler des plus fréquents. Et là encore, j'ai mis cette campagne de juin jaune. Tu t'es dit juste 10 minutes au soleil, et toi, 30 ans plus tard, voilà. Et donc, c'est quand même ralent, parce que 80% des cancers de la peau sont liés au soleil et donc devraient être évitables. Donc, il faut mettre en route, même avant d'avoir des lésions à dépister ou à traiter, eh bien, des mesures de prévention. Alors, revenons quelques instants sur que fait le soleil. Je vous ai montré les résultats. Donc, le soleil, eh bien, c'est différents types d'ultraviolets. Vous avez les ultraviolets B qui vont donner les coups de soleil, les ultraviolets A qui vont donner le bronzage, les vieillissements cutanés et les cancers cutanés, mais les UVB, en fait, ils donnent aussi les cancers cutanés. Les UVB peuvent être arrêtés par une vitre, mais par contre, les UVA peuvent tout à fait traverser. Donc, qu'est-ce qu'ils donnent au niveau de notre peau? Eh bien, ils vont donner des dommages au niveau de l'ADN, donc les acides nucléiques au niveau du noyau des cellules, entraîner des mutations. Et donc, c'est là où les cellules vont se mettre à faire n'importe quoi et à devenir des cellules cancéreuses. Il y a aussi nos défenses immunitaires qui diminuent au niveau de la peau exposée au soleil. Et donc, on va moins bien se défendre contre ces cellules cancéreuses et les éliminer. Le soleil, c'est une chose, mais le soleil artificiel, c'est la même chose, et même parfois pire. Et donc, les ultraviolets en cabine, je vous ai dit, les dermatologues les utilisent parfois pour traiter l'eczéma, le psoriasis, même si ça s'est quand même beaucoup restreint, ces indications-là. Eh bien, il faut savoir les utiliser avec raison, en suivant des doses très précises, et pas utiliser ces ultraviolets pour se préparer la peau au soleil. Ça ne veut strictement rien dire, ou avoir bonne mine. Il y a d'autres façons d'avoir bonne mine. Le résultat, c'est souvent ça. C'est d'avoir la peau qui devient de toutes les couleurs, avec du rouge, du marron et des cancers cutanés. Et vraiment, les UV à visée esthétique, c'est absolument à bannir. Pour que le soleil reste notre ami, moi j'aime bien quand même aller un peu au soleil, peut-être certains d'entre vous aussi, mais il faut bien le connaître, il faut adapter son comportement selon les risques de chacun. Et ça, c'est la prévention primaire. Alors, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux, et voyez, au niveau de la famille d'Angleterre ici réunie, il y a beaucoup de phototypes très différents. Et voyez que dans le couple de Harry, j'ai oublié le nom de sa femme, eh bien, ils n'ont pas du tout le même phototype, le même couleur de peau, et donc ils n'ont pas le même risque vis-à-vis du soleil. Alors, il y a aussi des maladies génétiques, ça c'est ce qu'on fait dans le centre de référence maladies rares qui nous expose beaucoup plus au soleil, mais surtout, le principe numéro un, c'est ce qu'on appelle le phototype et qui est ici illustré. Alors, le phototype, est-ce que vous connaissez votre phototype? Eh bien, pour connaître son phototype, eh bien, il faut savoir regarder la couleur de la peau, la couleur des cheveux, un petit peu la couleur des yeux, et puis aussi quelque chose qui est votre réaction vis-à-vis du soleil. Est-ce qu'on fait des coups de soleil quasiment tout le temps, ou fréquemment, ou quasiment jamais, et est-ce qu'on arrive à bronzer? Par exemple, si on a un phototype roux, qui est le phototype 1, eh bien, on a la peau très claire, les cheveux blonds ou roux, les yeux très clairs, on fait tout le temps des coups de soleil, et on n'arrive pas à bronzer. Donc, finalement, ça, c'est vraiment le vrai phototype roux. Et donc, finalement, le phototype roux, sauf s'il est complètement obligé de vivre dans un pays ensoleillé, il se protège assez bien. Et puis, le phototype 2, voyez, coup de soleil quasi constant, le hâle très léger, le 3. Et finalement, les gens qui sont les plus à risque d'avoir des cancers cutanés, qui devraient vraiment se protéger beaucoup, ça va être bon, le phototype roux, bien sûr, mais en général, ils se protègent. Mais le phototype 2, c'est-à-dire les gens qui ont la peau claire, qui vont quand même arriver à avoir un petit hâle à force d'y aller, eh bien, ceux-là, ils vont quand même prendre des coups de soleil. Et ce sont les coups de soleil qui sont vraiment tout à fait néfastes. Alors, si on regarde un petit peu de science que j'ai un peu simplifiée, eh bien, au niveau de notre peau, qu'est-ce qui pigmente notre peau? On a en fait de la mélanine qui est distribuée par des cellules qu'on appelle les mélanocytes sur nos kératinocytes de l'épiderme. Et donc, cette mélanine, elle ne va pas se présenter de la même manière selon qu'on a la peau noire, blanche ou rousse. Alors, par exemple, la peau noire, on a cette mélanine, ce qu'on appelle le mélanine, qui fait comme une espèce de parasol. Donc là, vous êtes complètement protégé des ultraviolets, et donc vous avez pas d'altération ou très peu de l'ADN. Si vous êtes avec un phototype plus clair, eh bien vous avez le mélanine qui est un petit peu dispersé au niveau des cellules et qui protège moins bien l'ADN, protection modérée. Et alors les roux, ça va pas du tout parce qu'il y a une mélanine en plus qui est pas de la même qualité, qui lorsqu'elle est exposée aux ultraviolets produit des radicaux libres, et donc c'est vraiment une très mauvaise protection. Alors, suis-je à risque? Alors, la peau, couleur de peau, et puis également le nombre de névus. Qu'est-ce qui vient de nous? Eh bien, si plus on a de névus, eh bien, plus on a de risque d'avoir un cancer de la peau. Et donc, on faut se protéger encore plus. Je vous ai aussi mis le crâne de cet homme parce que normalement, notre cuir chevelu, il nous sert à nous protéger du soleil. Et lorsqu'on perd ses cheveux, plus ou moins tôt, il faut mettre un chapeau et une casquette parce que vous allez vous retrouver avec cette peau du cuir chevelu qui est extrêmement fragile, fine et qui va développer des cancers de la peau. Vous allez en voir ensuite. Nous ne sommes pas égaux vis-à-vis du soleil selon nos activités. Alors, les activités, c'est les loisirs, sont les loisirs, le bateau, le tennis, le vélo. Donc, il faut vraiment se protéger, vraiment se mettre de la crème, du vestimentaire. Mais c'est aussi le travail. Et le travail, c'est vrai que les personnes qui travaillent dehors, sur les routes, dans les champs, les ostréiculteurs, eh bien, sont très souvent exposées tout au long de la journée. Ils ne vont pas à la plage, hein, mais ils sont exposés au soleil. Et c'est vraiment aussi le quotidien. Si vous êtes allé boire en terrasse un verre, eh bien, vous étiez au soleil et sans doute exposé de manière inconsidérée. Donc, il faut un parasol, un chapeau, se mettre de la crème et on va voir comment. Donc, c'est pour ça que je rebondis sur mon affiche de tout à l'heure. Les UV, c'est toute l'année et ce n'est pas que le soleil de la plage. Nous ne sommes pas égaux vis-à-vis du soleil parce qu'il y a parfois certaines maladies ou des antécédents qui peuvent nous rendre plus sensibles et plus à risque de développer des cancers cutanés. Et ça, c'est sans doute plutôt par ce que je vous ai dit, que le soleil donnait de l'immunodépression. Et alors, si vous êtes en plus déjà avec des défenses immunitaires diminuées, eh bien, vous avez plus de risques de développer des cancers cutanés. Et c'est par exemple le cas des patients qui sont greffés. Lorsqu'on a une greffe d'organes, greffe de rein, greffe de cœur, eh bien, on prend des traitements pour ne pas rejeter sa greffe. Et ces traitements diminuent les défenses et favorisent les cancers de la peau. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des campagnes auprès des patients greffés d'organes pour que très tôt, ils sachent comment se protéger et sachent s'auto-dépister également. Donc, les fausses sécurités aussi, c'est important. Lorsqu'il y a du vent, on s'en est sur un bateau, on ne sent pas du tout le soleil, eh bien, c'est là qu'on crame et qu'on prend les coups de soleil. La couverture nuageuse, eh bien, ça passe quand même à travers les nuages. Les sols réfléchissants, on connaît très bien ça avec la neige, mais c'est vrai aussi pour le sable, c'est vrai aussi pour l'eau. Et ça, vous voyez que ça réverbère aussi, même quand vous êtes sous le parasol, eh bien, à partir du sable, hop, ça peut réverbérer vers vous. Regardez l'index UV. Donc, c'est vrai que là, on communique beaucoup hein, sur l'index UV. Dès que vous commencez à dépasser 3, eh ben, ça ne va pas trop. Donc là, je vous ai fait une copie d'écran de l'index UV du sud-ouest de la semaine dernière. Donc, vous voyez que vous étiez 8. Donc, 8, ben, c'est très élevé. Donc, il faut vraiment une protection nécessaire, éviter les séjours en plein air, se protéger à la fois vestimentaire et avec de la crème. Et il faut aussi savoir les heures où il faut éviter de sortir et de s'exposer. Donc les mesures simples, quelles sont les mesures simples? Éviter 12h-16h en plein soleil. Alors c'est un peu différent quand vous êtes outre-mer. Alors une façon assez simple de le savoir, c'est il faut éviter de s'exposer tant que son ombre est plus petite que soi. Ça veut dire que le soleil va vous taper plus directement dessus. Donc, éviter de s'exposer dans ces heures-là. Éviter les expositions, je vous l'ai déjà dit, aux UV artificiels. Le parasol, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que rien. La protection vestimentaire, c'est quand même relativement économique et c'est efficace. Le chapeau, la protection oculaire, on n'est pas ophtalmo, mais il faut aussi en parler, c'est important. Donc, la protection vestimentaire, donc voilà un petit schéma qui vous dit que plus le tissage est serré, mieux vous êtes protégé. Bon, parfois, ça tient un peu chaud. Que les couleurs foncées bloquent mieux les ultraviolets que les couleurs claires. Donc, vous voyez, si vous mettez juste des vêtements tout blancs, ça va beaucoup moins bien vous protéger. Les tissus synthétiques, ça bloque plus que les UV en matière naturelle. Le fait d'avoir des tissus mouillés, eh bien, ça diminue l'efficacité. Donc voilà, on a différentes choses qui peuvent être prises en compte pour savoir quel est le meilleur vêtement à porter. Alors ensuite, il y a des choses qui nous sont souvent posées comme questions. Est-ce que de prendre des antioxydants, ça vous protège du soleil? Ça ne vous protège pas du tout du soleil. Ça ne vous protège pas du soleil. Les histoires d'antioxydants, c'est quand même très, très controversé. Et en fait, par contre, l'intérêt principal, c'est que ça vous donne un petit hâle que vous générez en prenant ces autobronzants, donc soit par voie orale et également par voie locale. Mais ça ne protège pas du tout du soleil. Alors, les crèmes écrans, ça a été démontré que ça avait un effet protecteur sur l'apparition des cancers, l'apparition aussi de nouveaux grains de beauté, ça c'est en particulier vrai chez les enfants, et du vieillissement cutané. Et pour qu'une crème solaire soit efficace, il faut protéger à la fois sur les A et sur les B. Alors, quand vous regardez ce qui est écrit sur les crèmes solaires, ce n'est pas toujours évident. D'abord, c'est écrit tout petit. Bon, ce qui est écrit en assez gros, c'est le SPF qui vous définit la protection vis-à-vis des ultraviolets B. Donc, ça va vous diminuer le risque de coups de soleil, qui est un peu une alerte. Mais il faut aussi que ça vous protège des UVA. Et donc, il y a un petit rapport qui est indiqué sur la crème qui doit être inférieur ou égal à 3. Donc, il faut en tout cas les deux. Bon, en général, la plupart des crèmes solaires répondent à ces objectifs. La problématique des crèmes solaires, c'est que elles ont été testées, et donc ce qu'on vous vend comme indice, eh bien, c'est avec des quantités qui sont souvent beaucoup plus importantes que ce qui est mis en pratique, qui est de 2 mg par centimètre carré. Donc ça, c'est quand c'est testé finalement au laboratoire, et on sait très bien qu'on met quand même beaucoup moins que ça. Et en tout cas, écran total, ça n'existe pas. Alors, c'est vrai que la crème, ça sera quand même un peu plus épais, ça sera plus efficace. Les sprays, les trucs, c'est vrai que c'est agréable à mettre, mais on en met quand même plus dans l'air qu'ailleurs. Les résistants à l'eau, c'est quand même moyennement résistant. Les SPF 30, qui sont quand même de la haute protection, c'est suffisant dans la majorité des cas d'ensoleillement classique. Je vous remontrerai une diapo après. Mais c'est vrai que dès que vous avez une peau à risque, peau claire, ou tout ce que je vous ai raconté dans les situations un peu plus à risque ou des conditions extrêmes avec un soleil extrêmement fort, ben dès que vous êtes dans les UV 8, les index UV 8 ou 9, eh bien, il faut mettre quand même du SPF 50+. Et c'est vrai que les conditions extrêmes risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Il faut continuer à se protéger, même quand on est bronzé. Le bronzage ne vous protège pas. Et il n'y a pas de risque de carence en vitamine D si vous mettez de la crème solaire. Il suffit finalement de se mettre 5-10 minutes le visage et les avant-bras par jour dehors pour arriver à synthétiser ce qu'il faut, et ça 2-3 fois par semaine. Donc, bon, ça suffit. Et là, c'est un petit tableau qui reprend finalement selon le phototype ce qu'on met. Donc, vous voyez que les gens qui ont un phototype, ce que je vous ai montré, 1 et 2, bah, quand même, ils mettent assez volontiers, dès qu'on est dans des index UV élevés, eh bien, ils mettent du SPF 50+. Alors, quand appliquer la crème écran? Idéalement, un peu avant l'exposition, c'est-à-dire qu'il faudra en mettre avant de partir à être en terrasse du café ou dehors. Donc, idéalement 15-30 minutes avant, en quantité suffisante, donc ce qui pose quand même aussi le problème du coût des crèmes écran, surtout lorsqu'on a une grande famille. Pensez au visage, pensez au cou et au décolleté, et en particulier mesdames. Le cou et le décolleté, c'est vraiment une région de notre peau qui est extrêmement fine et donc qui va vieillir et s'abîmer très précocement. Renouvelez l'application toutes les 2-3 heures après chaque bain. Respectez les dates de péremption. Si vous avez un tube qui date de l'année dernière, eh bien, vous pouvez le jeter. Ne pas laisser le tube en plein soleil. Bon, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas parce qu'on a mis une crème écran qu'on peut rester plus longtemps et à toute heure. C'est pas parce que l'écran a un SPF élevé qu'on peut en mettre moins. Donc ça, c'est des choses un peu générales, mais ça, c'est important. Vous en mettez toujours autant. Et l'objectif, finalement, c'est de permettre une exposition raisonnable, c'est-à-dire toujours en évitant les fameuses heures dont je vous ai parlé, en limitant les risques. Alors, il y a parfois des controverses là, sur les crèmes solaires. Il y en a même qui disent que la crème, ça va vous donner le cancer, ça va donner tout un tas de maladies. Il y en a même des, sur les réseaux sociaux, des gens qui font des tatouages avec des coups de soleil, c'est-à-dire qu'ils se mettent de la crème solaire sur, avec, comme une espèce de pochoir, et ensuite ils vont prendre un coup de soleil, donc c'est ça que ça donne. Bon, c'est absolument épouvantable. Alors, c'est vrai que vous savez qu'il y a peut-être que vous avez des crèmes avec des filtres chimiques, des filtres minéraux. C'est vrai que les filtres chimiques, il y en a beaucoup quand même qui ont été retirés. Il y en a quand même encore qui restent. Ils absorbent les ultraviolets, alors que les filtres minéraux, ils réfléchissent plutôt les ultraviolets. Alors, les filtres minéraux sont réputés comme étant plus épais, moins agréables à appliquer. Donc, ils ont été maintenant mis sous la forme de nanoparticules. Ça fait que c'est moins gras, ça pénètre un petit peu plus. Et c'est intéressant, en particulier chez les enfants. Le problème, c'est que même en ayant de très, 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 très bonnes lunettes, c'est assez difficile de voir la composition des crèmes écrans. Et puis, il y a aussi une discussion que ces crèmes écrans, ben, quand vous en mettez et que vous allez immédiatement dans l'eau, eh bien, 25% de la crème, elle part dans l'eau de baignade. Donc, ça a été incriminé sur certaines toxicités, en particulier le blanchiment des coraux. Alors, c'est peut-être un élément, mais c'est peut-être pas le seul élément qui fait que nos eaux sont polluées. Et finalement, dans le risque, dans le bénéfice-risque, il vaut quand même mieux se mettre de la crème, mais aussi des vêtements. Donc, la photoprotection, c'est un comportement adapté, une photoprotection combinée. Alors, on ne vous demande pas d'être comme en Chine avec ses tenues comme ça, mais peut-être pour aller faire du surf, eh bien, mettre des lycras, comme ici, mettre des t-shirts chez les enfants, donc pas tout blanc, vous avez vu, mettre des casquettes qui vous protègent bien, des consorts, voilà, peut-être revenir un peu à l'ancienne, mais déjà ça, eh bien, c'est très bien. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on veut éviter les cancers cutanés, dont va vous parler Émilie, et après je reviendrai.
On va voir un petit peu ensemble les cancers cutanés, à partir de quelles cellules ils se forment, et puis surtout, comment les traiter, et puis les évolutions majeures thérapeutiques de ces 10 dernières années. Donc là, vous voyez une coupe de peau. Il y a des cellules qu'on appelle les kératinocytes, qui sont présents juste ici, qui sont un peu les cellules de la carapace, qui sont très nombreuses, qui se divisent beaucoup et très vite. Et ce sont ces cellules qui sont responsables de la partie des cancers cutanés qu'on appelle les carcinomes, donc les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes. Et puis, un petit peu plus profondément dans la peau, vous trouvez ici les mélanocytes, qui sont donc les cellules qui vont fabriquer le pigment de la peau, comme on l'a vu, qui est donc la mélanine. Et ce sont ces mélanocytes qui vont être responsables du cancer cutané le plus agressif, qu'on appelle le mélanome. Donc, il faut bien retenir que la plupart des cancers cutanés, bien heureusement, ne sont pas des mélanomes. En majorité, il s'agit de carcinomes basocellulaires et des carcinomes épidermoïdes qui sont bien sûr liés au soleil, mais dont le traitement, on va le voir, est quand même beaucoup plus simple. Ces carcinomes, ils surviennent le plus souvent après l'âge de 50 ans, ce qui témoigne qu'il faut des années et des années d'exposition UV pour accumuler des mutations et arriver à la formation d'un cancer de la peau. Donc, quels sont les chiffres en France des cancers cutanés ? Donc, si on se focalise sur tous les cancers en général, on peut voir qu'il y a 400 000 nouveaux cas de cancer en France par an, responsables de 160 000 décès. Et si on se focalise sur les cancers cutanés, on a une estimation par an entre 140 et 240 000 cas. Ce n'est qu'une estimation puisque les carcinomes cutanés ne sont pas systématiquement référencés dans les études épidémiologiques. Donc, on a une fourchette un petit peu large. On a 1900 décès par an liés à l'évolution de ces cancers cutanés. Et on va voir que c'est principalement dû, ces décès, aux évolutions parfois métastatiques du mélanome. Et quand on regarde ces chiffres-là, on constate que finalement, les cancers cutanés représentent jusqu'à un tiers de l'ensemble des cancers. Donc, si on se focalise un petit peu plus sur le mélanome, en 2023, on a eu 17 000 nouveaux cas de mélanome en France. Et donc, le nombre de décès était d'environ 1900. L'âge médian pour l'apparition du mélanome, c'est 68 ans chez les hommes et 62 ans chez les femmes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le mélanome fait partie des cancers qui connaît une survie de plus en plus importante notamment survie à 5 ans, grâce à l'avènement des nouveaux traitements pour les mélanomes avancés. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, l'amélioration de la survie chez nos patients. Si on regarde un petit peu l'évolution des cancers cutanés en France entre les années 90 et 2023, je suis désolée, ça ne fait que bouger, on peut voir que le nombre de cancers cutanés a triplé. Là, vous voyez la courbe orange, c'est l'ensemble des cancers cutanés. Vous voyez en vert les carcinomes, qui sont donc les plus fréquents, et en violet les mélanomes. Donc on voit plus 140% de ces cancers et la courbe ne fait qu'augmenter. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une exposition accrue aux UV au cours des 30-40 dernières années, à cause de l'avènement et de la généralisation des vacances au bord de la mer, à cause aussi du fait que le bronzage est considéré comme une norme esthétique importante, notamment en Europe, et puis aussi certains comportements dans les années 70-80, avec l'utilisation d'huile d'olive pour bronzer mieux, avec l'utilisation de la fameuse graisse à traire pour bronzer encore plus, et puis les fameuses cabines UV qui sont donc tout à fait responsables, et c'est bien démontré, de l'apparition de cancers cutanés, et malheureusement pas encore interdites en France, mais on mène de nombreuses actions pour arriver à les interdire. Et puis il y a aussi le vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'on va accumuler au fur et à mesure des décennies ces mutations qui vont créer des cancers. Le meilleur dépistage, hein, on dépiste beaucoup mieux en 2026 que dans les années 90, et on va voir avec quel type de matériel on peut dépister. Et puis l'exposition professionnelle, on vous en a parlé juste avant, ça c'est vraiment constant. On a une partie de la population qui reste quand même très exposée, notamment métiers du bâtiment, marins, et puis surveillants de baignade, etc. Alors comment on arrive à la formation d'un cancer ? Donc il y a dans la peau des cellules qui sont tout à fait normales, qu'on voit juste ici. Et puis, au bout d'un certain temps, avec l'accumulation des mutations, on a les cellules cancéreuses qui commencent à apparaître et qui vont se développer au début uniquement sur la couche superficielle de la peau. C'est ce qu'on appelle un cancer in situ. Donc, la nature du cancer est de progresser. Et donc, petit à petit, les cellules vont se multiplier. Elles vont quitter la peau. C'est ce qu'on appelle un cancer infiltrant. Et c'est là qu'elles peuvent parfois donner ce qu'on appelle des métastases et disséminer dans l'organisme. Donc le rôle de notre système immunitaire à la base, c'est de traquer et de détruire tout élément étranger. Et donc on peut voir sur les cellules représentées en vert, les cellules du système immunitaire qui, pendant un certain temps, vont contrôler la présence des cellules cancéreuses rouges. C'est ce qu'on appelle un état d'équilibre. Les cellules cancéreuses, elles sont complètement contrôlées par notre système immunitaire et au bout d'un moment, l'équilibre va se rompre, les cellules vont se multiplier, elles vont échapper à la surveillance du système immunitaire et donc le cancer va progresser. Donc pourquoi il y a cette rupture d'équilibre qui fait que le cancer va dépasser les phénomènes de réparation du système immunitaire ? Eh bien, ce sont des mutations qui vont complètement dérégler le cycle de la cellule. La cellule cancéreuse qui va créer autour d'elle un micro-environnement qui va être favorable à sa multiplication. Elle va également fabriquer comme un réseau sanguin pour pouvoir se multiplier et se développer. Et surtout, elle va réussir à échapper au phénomène de mort cellulaire programmée qu'on appelle le phénomène d'apoptose et donc proliférer. Donc on va voir un petit peu la première partie qui sont donc les carcinomes, qui sont les cancers cutanés les plus fréquents. Alors, le carcinome basocellulaire, c'est vraiment le tête de file de nos cancers cutanés. C'est lié à vraiment une exposition solaire intermittente et très intense, c'est-à-dire des coups de soleil répétés et surtout pendant l'enfance. C'est pour ça qu'on insiste énormément sur la protection des enfants. Cliniquement, il peut y avoir plein d'aspects différents. Ça peut être un bouton qui persiste au-delà de 3 mois, ça peut être une tache rosée, ça peut être une croûte qui va et puis qui revient, et ça peut être parfois une plaie qui ne guérit pas après plusieurs mois malgré des pansements. Voilà, tous ces aspects cliniques-là doivent faire évoquer la potentielle présence d'un cancer de la peau. Donc le diagnostic, nous on va le faire, les dermatologues, à l'examen clinique, à l'œil nu, mais on va s'aider aussi beaucoup de ce qu'on appelle un dermatoscope, qui est cet appareil ici qui va nous permettre de voir au plus fort grossissement certaines caractéristiques qui peuvent nous aider au diagnostic. Le diagnostic de certitude, il va être fait par la réalisation d'une biopsie cutanée. Donc on va vers une anesthésie locale, et puis avec un petit appareil qu'on appelle un punch, on va prélever 3 à 4 mm de peau. Vous allez avoir cette petite carotte de peau qui va partir à l'analyse et qui va nous donner le diagnostic de certitude. Le traitement de référence des carcinomes basocellulaires, c'est la chirurgie. Donc enlever le cancer, ce n'est que la première étape, hein, puisque nous, ce qui va être très important, c'est qu'on retire la tumeur avec cette marge de sécurité. Donc là, vous voyez, en pointillé, on va délimiter les marges de la tumeur. Et puis en très plein, on va prendre une marge de sécurité pour être sûr de bien tout enlever, parce qu'il arrive que le cancer s'étende au-delà de ce qu'on peut voir à l'œil nu. Et puis après, il va y avoir toute la reconstruction, hein, puisqu'on va laisser comme un trou en place, et donc on ne peut pas fermer directement, et donc il va y avoir une reconstruction plus ou moins complexe avec ce qu'on appelle des lambeaux. Donc c'est la mobilisation de la peau afin d'avoir un résultat esthétique et fonctionnel le plus idéal possible. De temps en temps, on utilise une chirurgie très, très spécifique qui s'appelle la chirurgie de Mohs. Donc, c'est une chirurgie qui va permettre d'analyser très finement l'ensemble des bords de la tumeur. Et ça va nous permettre d'enlever le minimum de peau possible pour pouvoir reconstruire facilement après une exérèse chirurgicale. Donc, cette chirurgie, on la réalise quotidiennement dans le service. On la réserve à certains sous-types de tumeurs agressives et puis aussi certaines localisations, comme par exemple le nez, les oreilles ou les lèvres, où on sait que la reconstruction va être un peu complexe. Donc le carcinome basocellulaire, qu'est-ce qui se passe si on ne l'opère pas ? Eh bien, il a un risque d'évolution locale, c'est-à-dire que petit à petit, année après année, il va se propager localement sur la peau, il ne va pas partir ailleurs. Et donc, vous voyez, ces patients, on a dépassé le stade de la chirurgie. Opérer, ce n'est plus possible. Et donc là, on discute de ces patients tous ensemble dans le service, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et on va proposer des traitements alternatifs, comme de la radiothérapie de contact, par exemple, qu'on fait au CHU. Donc, on va délivrer une petite dose de rayonnement au niveau de la tumeur. Ou alors, on peut utiliser aussi des traitements ciblés, donc avec des cachets, qui vont bloquer la prolifération du cancer. Le cousin du carcinome basocellulaire, c'est le carcinome épidermoïde. Donc l'épidermoïde, lui, il apparaît vraiment sur des patients qui ont été exposés au soleil de manière très, très, très chronique. Ça apparaît très souvent après 40 ans. C'est très fréquent sur les patients qui ont la peau claire ou même les patients qui sont transplantés. Donc au début, ça commence par des lésions précancéreuses qu'on appelle des lésions de kératose actinique. Ce sont ces lésions rouges, squameuses, qui touchent donc les zones exposées au soleil, le visage, le dos des mains. Et puis si on ne traite pas ces lésions précancéreuses, au bout d'un certain temps, on arrive vraiment à la formation de véritables carcinomes épidermoïdes. Donc on a différentes techniques, les dermatologues, pour traiter ces lésions précancéreuses. On va utiliser parfois la cryothérapie. Donc c'est l'application de froid très intense pour détruire ces cellules anormales, donc ces kératinocytes qui sont mutés. Et puis on va pouvoir aussi utiliser d'autres techniques comme la photothérapie dynamique, où on applique une crème et sous l'action des UV, il y a une destruction de ces kératinocytes. Et puis d'autres types de traitements en crème avec une chimiothérapie par exemple, ou alors un autre traitement qu'on appelle l'imiquimode qui va stimuler localement avec une crème le système immunitaire. Quand on a dépassé le stade de lésion précancéreuse et donc qu'on a vraiment un carcinome épidermoïde qui est en place, c'est la chirurgie qui est recommandée comme traitement de référence. Et pourquoi c'est recommandé ? Parce que si on n'opère pas les patients, à l'inverse du carcinome basocellulaire, il existe un risque de métastase, donc avec par exemple des cellules de cancer qui peuvent migrer dans les ganglions ou alors parfois dans les organes, notamment le poumon. Quand on n'arrive plus à opérer le carcinome épidermoïde, par exemple parce qu'il est ou trop développé ou alors qu'il a donné des métastases ailleurs, on utilise l'immunothérapie. Donc, vous avez peut-être en entendu parler de l'immunothérapie. C'est vraiment un traitement qui a révolutionné la prise en charge de nos cancers cutanés. En fait, le mécanisme physiopathologique, c'est que le lymphocyte, à l'état naturel, il est un petit peu freiné par l'organisme. Il ne peut pas se développer comme il veut pour attaquer la cellule cancéreuse. Et avec un traitement par immunothérapie, c'est-à-dire comme un vaccin qu'on fait par voie intraveineuse, on va lever le frein de ces globules blancs, on va stimuler leur action pour qu'ils se dirigent eux-mêmes contre les cellules cancéreuses. Donc là, vous voyez un patient qui avait un carcinome épidermoïde qui était vraiment très, très étendu en profondeur. On n'aurait pas pu l'opérer ou alors ça aurait fait vraiment une chirurgie qu'on dit délabrante. Et on voit qu'avec 3-4 perfusions d'immunothérapie, on a un résultat parfait avec une régression complète de ce cancer. Donc ça a vraiment été une révolution de ces 10 dernières années. Et donc on va passer au mélanome, donc qui est le plus rare. Mais en fait, on en entend beaucoup parler parce que c'est vraiment lui le plus agressif. Donc nous, le mélanome, on peut l'évoquer à l'œil nu ou alors avec notre appareil qui est donc le dermatoscope, qui est la loupe. Et puis, le plus souvent, il faut savoir que le mélanome, il apparaît sur une peau où il n'y a pas de grain de beauté dessous. Donc vraiment, il apparaît de nouveau. Et de temps en temps, ça peut être la modification d'un grain de beauté. Donc c'est pour ça que nous, on a une règle qui est très, très importante à retenir, qui est la règle ABCDE, hein, qui permet d'alerter sur un grain de beauté qui se modifie et se dire « attention, il peut y avoir un mélanome dessous ». Donc A, c'est asymétrie, c'est vraiment une lésion qui va avoir deux moitiés qu'on ne peut pas coller l'une avec l'autre. B pour bord, donc des bords complètement irréguliers. C pour couleur, hein, une lésion, un grain de beauté qui commence à avoir plusieurs couleurs, marron, rouge, bleu, etc., ça doit alerter. Le diamètre, hein, donc un grain de beauté qui est plus de 6 cm et qui se modifie. Et puis le plus important pour nous, c'est le E, c'est l'évolutivité. Donc vraiment un grain de beauté qui se met à changer doit faire alerter et doit être montré à un dermatologue. Donc là, vous voyez des présentations cliniques très variées de mélanomes et vous pouvez constater que dans quasiment tous les cas, ce sont vraiment des lésions qui sont hétérogènes, qui ont des bords irréguliers, qui ont plusieurs couleurs, et puis la plupart du temps, qui se sont modifiés les derniers mois, globalement. Donc avec le dermatoscope, voilà ce qu'on peut voir quand on a un doute sur une lésion qui est pigmentée, on regarde au fort grossissement, et donc là, on peut constater l'hétérogénéité des couleurs, et puis d'autres signes qui nous permettent d'affiner le diagnostic de mélanome. Alors évidemment, toute lésion pigmentée, toute lésion marron n'est pas synonyme de mélanome. Là, je vous ai montré d'autres images de lésions pigmentées. On voit des grains de beauté tout à fait standards, des kératoses séboriques qui font peur parce qu'elles ont un aspect qui peut être un petit peu inquiétant, mais qui sont parfaitement bénignes, des lentigos qui sont globalement des taches de soleil, et puis les taches café au lait qui sont sans lien avec un cancer cutané. Et puis, on a un autre signe aussi, nous. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On appelle ça le signe du vilain petit canard. Donc, le signe du vilain petit canard, c'est que chez un sujet donné, les grains de beauté, ils ont tendance à se ressembler. C'est-à-dire que, par exemple, là, on voit à gauche un patient qui a énormément de grains de beauté, mais ils ont tous un petit peu la même forme et la même couleur. Et en fait, le vilain petit canard, c'est celui-ci. C'est celui qui ne ressemble pas aux autres et qui, du coup, va attirer notre œil et qui est considéré comme suspect. Alors attention, une lésion suspecte chez un patient ne le sera pas chez un autre. Donc ça explique qu'on n'examine jamais une lésion toute seule, mais que nous, on doit examiner le patient de la tête aux pieds. Donc l'identification du mélanome, ça peut être dans plein de situations. Des fois, on a des patients qui sont adressés parce que coiffeur et kinésithérapeute ont donné l'alerte sur cette modification-là. Ou alors le médecin traitant qui nous adresse pour une modification de lésion. On a des patients qui ont un mélanome entre guillemets pour la première fois et on a des patients qui sont à risque parce qu'ils sont immunodéprimés, ils sont greffés et donc ils ont dans leurs antécédents parfois d'autres cancers cutanés. Si on a une suspicion de mélanome, contrairement au carcinome, hein, je vous ai dit que le diagnostic c'était avec une biopsie, eh bien en fait avec le mélanome il faut faire l'exérèse complète. Donc on va enlever complètement la lésion au bistouri pour avoir un diagnostic de certitude. Donc, on ne peut pas faire de biopsie, sauf dans des cas très particuliers, de lésions du visage, par exemple, ou de lésions des extrémités. Ça va nous permettre de mesurer l'épaisseur de la lésion. Ça, c'est le plus important dans le mélanome. On appelle ça l'indice de Breslow. C'est l'épaisseur. Et puis, on va aussi regarder d'autres caractéristiques qui vont nous permettre de classer notre mélanome en peu agressif ou agressif. Donc, la première étape, c'est le cercle rouge. On a enlevé notre mélanome, mais ça ne s'arrête pas là. On doit faire une reprise des marges tout autour. Donc, on appelle ça une marge de sécurité. Et on va définir la taille de la marge en fonction de l'épaisseur qu'on aura mesurée au microscope. Et donc avant, globalement, on s'arrêtait là. Et puis, depuis quelques années, on ne s'arrête pas là. Hein. La science a fait des progrès. Comme dans le cancer du sein, on va aller rechercher la présence de cellules de mélanome dans le ganglion sentinelle. Hein, c'est-à-dire que c'est le ganglion qui va drainer le territoire de la région où est le mélanome. Et on va regarder s'il n'y a pas la présence de cellules microscopiques. Pour le mélanome, on peut aussi faire des examens complémentaires, d'autres examens. Donc, on va aller rechercher la présence de métastases ailleurs, avec des échographies, par exemple, ou alors avec la réalisation d'un scanner, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres lésions. Donc, après, on va se retrouver devant deux cas. On a les mélanomes localisés qu'on aura opérés. Je suis désolée, ça ne fait que sauter. À faible risque. Donc, ils ne vont pas avoir de traitement complémentaire et donc on va les suivre. Et puis, il y a les mélanomes de forte épaisseur qui, eux, sont à risque de récidive, c'est-à-dire de donner des métastases, parfois sur la cicatrice ou ailleurs. Et donc, pour ces patients-là, on peut proposer un traitement complémentaire, donc un traitement préventif pendant un an. Et ça, ça a été aussi une révolution depuis à peu près 5-6 ans. Ces deux concepts révolutionnaires de traitement préventif après chirurgie d'un mélanome, c'est l'immunothérapie, on en a déjà parlé, et aussi on a un autre traitement qui est la thérapie ciblée, hein, qui est un traitement, comme son nom l'indique, qui va cibler les cellules de mélanome. Tous ces médicaments-là, on les avait dans notre arsenal thérapeutique il y a 10 ans, quand le mélanome était à un stade métastatique, et là, on les utilise en traitement complémentaire, c'est-à-dire en traitement préventif, parce qu'ils ont montré qu'ils diminuaient le risque de récidive. Donc, on a parlé un petit peu de l'immunothérapie, qui est comme un concept de vaccin. La thérapie ciblée, elle va cibler spécifiquement une mutation du mélanome, qui est la mutation BRAF ici. 50% des patients ont cette mutation. Et donc, le but, c'est que le traitement bloque cette mutation et donc bloque la prolifération du cancer. Donc, c'est un traitement qui se fait en comprimé pendant un an. Après, le suivi va être un petit peu adapté à l'épaisseur du mélanome et puis aussi au fait qu'on soit avec d'autres pathologies comme une immunodépression ou une greffe. Et donc, on va faire un suivi à vie hein, parce que le risque de récidive de mélanome est à vie. On peut utiliser aussi cet appareil qui est la vidéodermoscopie. Donc, quand on a un patient qui a une centaine de grains de beauté, c'est très difficile de le suivre à l'œil nu. Et donc, on va utiliser toutes ces machines pour être sûr de ne pas passer à côté d'un mélanome débutant. Et donc là, l'imagerie va nous aider à repérer des signes précurseurs. Là, je vous ai fait une diapositive pour vous montrer les progrès énormes dans le mélanome métastatique. Donc, c'est-à-dire que quand le mélanome, malgré le fait d'avoir été enlevé, récidive et donne des métastases, avant 2010, on n'avait pas grand-chose. C'était surtout de la chimiothérapie qui marchait peu. Et puis la première révolution, ça a été dans les années 2011-2014, avec l'arrivée des premières immunothérapies. Et là, on a vu des patients survivre à un mélanome métastatique. Et puis après, en 2015, on a eu les thérapies ciblées. Et puis l'avènement, ça a été surtout en 2017-2020, avec des combinaisons d'immunothérapies qui nous permettent à l'heure actuelle de faire disparaître complètement les métastases chez certains patients. Donc on appelle ça une rémission complète et ça ne se voyait pas avant 2010. Aujourd'hui, on continue de faire des progrès, surtout avec l'utilisation de vaccins personnalisés, c'est-à-dire qu'à l'aide de la tumeur du patient, on va créer un vaccin pour avoir cette immunité vraiment très très spécifique. Donc le progrès continue. Là, je voulais faire un mot sur l'essor de l'intelligence artificielle parce que c'est important d'en parler. Vous avez peut-être pu constater qu'il y a une explosion des applications d'intelligence artificielle en dermatologie accessibles au grand public. Là, j'en ai cité 4, mais il y en a plus d'une quinzaine. Il faut savoir que ces applications, elles ont vraiment des preuves d'efficacité très, très limitées et sur le plan diagnostique, elles sont insuffisantes. Les dermatologues sont très rarement impliqués, hein, quasiment 26% maximum des applications vont être faites conjointement avec les dermatologues. Et on a un statut réglementaire très flou. Certaines ont le marquage CE, qui est conformité européenne, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir vraiment, sur le plan réglementaire, être un dispositif médical. Donc, c'est pour donner l'alerte. Attention à ne pas se fier à 100% ces applications. Et d'ailleurs, la Société française de dermatologie a fait un communiqué à ce sujet pour alerter sur les risques. Donc, les risques pour le patient, c'est une information qui est délivrée directement au patient, mais sans médecin à côté. Donc, il peut être extrêmement anxiogène, sans parcours de soins. Le médecin traitant n'est pas au courant, le dermatologue n'est pas impliqué. Attention aux faux négatifs, c'est-à-dire que, au surdiagnostic de mélanome, alors que ça n'en est pas un, qui peuvent être extrêmement anxiogènes. Et puis aussi aux lésions de mélanome, qui sont considérées à tort comme des lésions bénignes. Donc, en gros, les erreurs de diagnostic, qui entraînent une perte de chance. Et puis aussi, c'est important de discuter du coût, le coût pour le patient, parce que ces applications, elles sont payantes. Il faut payer un abonnement mensuel. Et puis le coût indirect pour la CPAM, parce qu'il y a des consultations retardées ou même parfois des consultations inutiles. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle en dermatologie, mais il faut qu'elle soit bien contrôlée et cadrée sur le plan réglementaire. Le plus important, au-delà des applications, c'est savoir bien surveiller sa peau, donc c'est-à-dire l'autosurveillance. Et l'autosurveillance, ce n'est pas juste regarder ses bras, ses jambes, c'est vraiment très stéréotypé. Il faut savoir utiliser un miroir pour regarder bien l'arrière de la peau, pour regarder le haut du dos, bien regarder derrière les coudes, bien regarder également sur plante des pieds et sur les mains. Et donc, en appliquant cette technique-là, on est capable d'auto-surveiller l'ensemble de son tégument. Hein, ce qui est vraiment le message principal, c'est savoir s'auto-surveiller.
Alors, pour finir, et ça reprend un petit peu ce dont on a parlé, eh bien, c'est vrai que c'est important d'arriver soi-même, d'être acteur, de savoir si on est à risque, est-ce qu'on doit se faire dépister. Donc, vous avez vu, la prévention, c'est le mieux, c'est le début. Et est-ce que je dois aller voir un dermatologue? Alors, on a, avec la Société française de dermatologie, le groupe de cancérologie, il y a eu cette campagne qu'on a appelée « Yes, I can », comment je vais surveiller ma peau. Donc, ce qu'a dit Émilie Girard, donc une lésion qui change de taille, de couleur, anormale, c'est nouveau. Est-ce que je suis plus à risque? J'ai la peau claire, j'ai des taches de rousseur, j'ai des grains de beauté, j'ai un cancer sur la peau, je travaille en extérieur. Et ça, je suis plus à risque si j'ai ces facteurs-là. Si je n'ai absolument pas ces facteurs-là, bon, je peux toujours aller voir un dermatologue, mais il n'y a peut-être pas moins d'urgence d'aller le voir. Et ça reprend en fait ce qui avait été proposé il y a quelques années, qu'on a appelé le SAM score, qui est un score que l'on peut s'appliquer à soi-même. Est-ce que j'ai des taches de rousseur? Est-ce que j'ai plus de 20 grains de beauté? Le phototype, dans quel groupe je suis? Est-ce que j'ai eu des coups de soleil dans l'enfance? Est-ce que j'ai vécu dans un pays à fort ensoleillement? Est-ce que j'ai eu au cours de ma vie un mélanome? Et est-ce qu'un membre de la famille en a eu un? Est-ce que j'ai plus ou moins de 60 ans? Et si on a plus, à partir de 3, eh bien là, on commence à devoir aller voir un dermatologue. Alors, comment je fais pour aller voir un dermatologue? Alors, on a un petit problème qui est un gros problème. C'est la démographie des dermatologues, qui est une des spécialités les plus en crise dans la démographie médicale en France. Vous avez ici la carte du CNOM qui montre dans les zones blanches des zones où parfois il n'y a plus aucun dermatologue ou un ou deux dermatologues, et je cite par exemple les Landes ou le Lot-et-Garonne, surtout le Lot-et-Garonne, la Creuse aussi, mais il n'y a pas que, où ça devient de plus la carte de France devient de plus en plus blanche. Et face à ça, il y a ce que je vous ai dit au début, il y a beaucoup de maladies de peau, il y a un tiers des Français qui ont une maladie de peau, plus la population vieillit, eh bien, plus on est à risque de faire des cancers cutanés. Et donc, en 2023, on s'était regroupé avec l'association de patients, la Société française d'hermato, le syndicat, etc., pour faire cette tribune dans le monde et alerter nos dirigeants avec la dermatologie est au bord du précipice parce qu'on est préoccupé du risque de retard de prise en charge, de diagnostic à des stages avancés et donc de perte de chance. Si je fais voilà, un zoom sur la Nouvelle-Aquitaine, eh bien 8 sur 12 des départements, il y a moins de 4 dermatologues pour 100 000 habitants, 1 0 et 2 à risque de 0 dans les 10 ans. Et c'est donc une désertification médicale, mais il n'y a pas que les dermatologues, qui touchent aussi les médecins généralistes. Alors, on est tous acteurs et il y a quelque chose sur lequel on essaie de travailler, c'est le parcours patient. Donc, à la fois en impliquant le généraliste comme premier acteur et qui peut essayer un peu de hiérarchiser la demande, d'avoir un réseau de soins avec un dermatologue bien identifié par le généraliste, que le généraliste sache quand il peut, s'il est inquiet, s'il a une question spécifique, contacter un dermatologue. Impliquer les patients pour justement avoir ces règles de prévention primaire, mais aussi secondaire. Avoir une diffusion et un travail en réseau, la synergie avec les associations de patients. C'est comme ça qu'on a mis en place des réseaux de télé-expertise où le généraliste peut envoyer une photo et un résumé court de sa problématique avec son patient et le dermatologue lui répond. Soit il lui donne la solution, soit il lui dit bah, « ce patient, oui, effectivement, il faut que je le voie rapidement », ou bien « ça, ce n'est pas urgent hein, », ou bien ça, voilà, il lui donne en fait la conduite à tenir. Et par exemple, dans le service, toutes nos demandes par un généraliste passent par la télé-expertise, ce qui nous permet de donner des réponses en 48-72 heures et de hiérarchiser et d'essayer de ne pas passer à côté de problématiques et donc de perte de chance. Et donc, voilà, pour pouvoir aller vers le dermatologue avec des prises en charge et des délais adaptés, compte tenu de cette démographie médicale. Alors, on essaie, à côté de la télé-expertise, de faire des innovations et des expériences pilotes. Et je ne résiste pas à vous parler de l'opération Mobile Derme, qui a été mise en place de manière pilote en Nouvelle-Aquitaine, où, avec un camion, eh bien, des dermatologues sont allés dans des zones de désert médical et ont consulté. Donc, on a fait depuis février plus de 1000 consultations dans ces zones. Et c'est peut-être ce type d'opération, des opérations qui sont des graines qui peut-être seront amenées à pousser pour que. Il y aura peut-être d'autres camions ou il y aura peut-être des dermatologues qui vont donner 1-2 jours de leur temps pour venir dans des zones sous-denses, dans un centre de santé tous les 3 mois, tous les 4 mois. Mais si on s'y met tous, eh bien, on peut peut-être arriver. Mais la meilleure solution, ça sera également qu'on forme davantage de médecins et davantage de dermatologues et qu'on soit tous acteurs. Et voilà un schéma aussi qui a été fait. Vous voyez, c'est fait par les associations de patients. J'ai une tache bizarre sur la peau, je vais chez mon médecin généraliste, il utilise la télé-expertise, j'obtiens un diagnostic en 3 à 5 jours et selon le diagnostic, je rencontre le dermatologue et si c'est urgent, le dermatologue, il a des créneaux qui ne sont pas visibles sur Doctolib, mais qui sont des créneaux rapides pour voir. Mais toujours est-il qu'il faut que le généraliste il s'intègre dans ce réseau et qu'on puisse utiliser les outils actuellement disponibles. Donc ça, c'est la photo du service, la photo quand on fait des campagnes d'information auprès du public. On fait aussi de la recherche sur les cancers cutanés. Et ça, c'est le site d'information sur les cancers de la peau, donc qui est... Ah, moi aussi, ça saute. Qui est donc le groupe de cancérologie cutanée ou cancer et peau, où il y a des fiches qui expliquent les différents types de cancers, les différents traitements, et que nous, on utilise très, très souvent pour les patients que nous voyons et qui permettent de voir en libre accès. On peut voir tous ces différents algorithmes de prise en charge. Et nous avons fini.